Vous écoutez France Culture.
Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor.
Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalquier, avec à la prise de son Nicolas Régis. Aujourd'hui, nous recevons Françoise Bonnardel pour parler des enjeux spirituels de la culture. Françoise Bonnardel, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Bonjour Lélie.
Bonjour Lélie.
Bonjour Françoise, bonjour Frédéric. Vous êtes Françoise Bonnardel, philosophe et écrivain, professeur émérite à la Sorbonne, et vous avez enseigné pendant 20 ans la philosophie des religions. Vous vous êtes intéressée à des sujets extrêmement divers dans leur apparence, mais qui en réalité sont tenus par un fil rouge que nous allons essayer de suivre aujourd'hui lors de cette émission. Vous êtes auteur d'une douzaine d'ouvrages alliant philosophie et poésie. Vous vous êtes inspiré des traditions anciennes que vous connaissez fort bien, l'hermétisme, la gnose, l'alchimie, pour renouveler l'approche de certaines œuvres d'art. Celle de Dürer, par exemple, à travers votre ouvrage « Triptyque pour Albrecht Dürer », dont il sera question lors de cette émission, ou alors de questions contemporaines sur la transmission, le nihilisme, la crise de l'identité culturelle européenne, en particulier dans votre ouvrage « Des héritiers sans passé », dont le sous-titre est « Essai sur la crise de l'identité culturelle européenne ». Alors, pourquoi faire cette émission sur les enjeux de la culture ? C'est parce que je vous ai écouté, lors d'une conférence dans les journées Henri Corbin, parler de la possibilité d'une chevalerie spirituelle pour lutter contre le nihilisme ambiant. Et il me semble que dans tous les livres que vous écrivez, c'est cette question-là que vous creusez. Pourquoi la perte de culture, d'identité, de transmission, en tout cas dans le monde européen, est le signe patent du nihilisme ambiant ?
Alors, je vous remercie tout d'abord d'avoir été sensible à l'existence de ce fil rouge. Parce qu'il est vrai que la diversité des questions auxquelles renvoient mes ouvrages pourrait paraître le signe d'un éclectisme un peu inquiétant, voire d'une dispersion. Or, en fait, il y a effectivement un fil rouge et peut-être puis-je dire immédiatement que ce fil rouge m'a été très clairement suggéré par la réflexion que j'ai menée pendant un certain nombre d'années, et que je continue d'ailleurs à mener, sur l'alchimie. Donc, à mon sens, il y a un fil rouge et il y a aussi un creuset. Il y a un foyer. Il y a un foyer commun. Et j'en découvre moi-même de plus en plus l'existence. Mais pour répondre plus directement à votre question, il me semble effectivement que ce fil rouge m'a conduite à une interrogation sur cette crise de la culture et de la culture européenne en particulier, face à ce phénomène multiforme, inquiétant, qu'on nomme le nihilisme. Alors, peut-être faudrait-il, sans entrer trop dans les détails et être trop technique, rappeler que ce terme peut avoir des significations différentes. Disons, pour simplifier, qu'il y a nihilisme chaque fois qu'il y a soit fascination pour le néant, pour le vide, pour le rien, et en tout cas perte de sens. Nietzsche, qui est évidemment la grande référence chaque fois qu'on parle du nihilisme, posait lui-même la question et disait « qu'est-ce que le nihilisme ? Les valeurs supérieures se dévaluent. » Autrement dit, tous les idéaux qui ont constitué les piliers de ce que nous nommons la culture, eh bien, sont en voie d'effritement, d'effondrement, de dissolution. Bon, donc ça, je crois que c'est la première, première référence philosophique que l'on peut donner du nihilisme. Mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. Et on peut dire que le nihilisme commence à partir du moment où on s'interroge sur le sens de la vie et où on y répond par la négative. À ce moment-là, le « tout est vain » de l'Ecclésiaste est déjà une proposition nihiliste. On a aussi beaucoup parlé, mais je ne veux pas m'étendre sur cette question, du caractère nihiliste de, certaines révolutions. La volonté de destruction porte en elle le nihilisme. On pourrait en dire autant du terrorisme aujourd'hui. Il y a un nihilisme, mais la complexité de la question est que pour celui qui pose une bombe et se fait exploser et son environnement avec, il le fait pour une raison. Donc, si vous voulez, le nihilisme pur, à l'état pur, si on peut dire, est très difficile à détecter. Il y a toujours plus ou moins de façon sous-jacente une raison qui fait agir telle ou telle personne dans tel sens. Mais je crois qu'il faut s'en tenir à cette vision qui a été celle de Nietzsche à la fin du 19e siècle et qui est une prophétie, mais en même temps une prophétie fondée sur l'observation des faits qu'il pouvait déjà constater à son époque, à savoir qu'effectivement, ces grandes valeurs, ces grands idéaux, eh bien, s'effritent. Et qu'à partir de là, eh bien, commence ce que nous constatons tous les jours aujourd'hui, c'est-à-dire cet effritement du sens, ce règne du relativisme, d'une forme soit d'hédonisme débridé, soit de cynisme, et finalement, cette absence d'orientation. Donc, je pense que ce qui réunit aujourd'hui des esprits au demeurant très différents, c'est ce constat qu'on ne sait plus où on va, on ne sait même plus si on va vers quelque chose. Et vous constaterez, par exemple, qu'il y a un mot magique qu'on nous répète à satiété, c'est le mot d'avancer. Alors, on avance, il y a des avancées, mais on ne nous dit jamais vers quoi. Donc, il y a, je dirais, pour être brève, une atmosphère nihiliste dans laquelle nous baignons aujourd'hui, plus encore qu'à l'époque de Nietzsche, même si elle est, je dirais, rendue en apparence plus aimable, plus sociable, etc., plus humaine même à la limite. Mais on peut dire que la prophétie de Nietzsche s'accomplit de jour en jour et que le nihilisme devient d'autant plus difficile à détecter et donc à combattre qu'il prend des allures aimables. C'est l'homo festivus que Philippe Muret a tellement décrit avec autant de talent, de vigueur et de désespoir.
Alors, je suis d'accord avec vous sur le constat. D'ailleurs, Nietzsche disait il faudra 2 siècles pour que l'Europe prenne conscience de ce que signifie la mort de Dieu et des valeurs.
C'est ça.
Et on est 2 siècles, on est, enfin, en tout cas, pas tout à fait.
Un bon siècle.
Un bon siècle, je veux dire. Disons, et on commence à réaliser l'ampleur, effectivement, de ce qu'il appelle la catastrophe nihiliste.
Tout à fait.
Et en même temps, et là, je rejoindrai aussi Nietzsche, bien sûr, sur le constat, tout est juste, l'homme contemporain est désorienté au sens propre, mais on peut se poser la question. Est-ce que ça peut être aussi un mal pour un bien? C'est-à-dire qu'il peut y avoir une perte de tout ce qui a été effectivement pendant des siècles, voire des millénaires, une forme de transcendance, un certain nombre de valeurs établies, soit dans les religions, soit dans les philosophies, type la philosophie kantienne,
bien sûr,
a succédé aux religions, mais qui reste quand même extrêmement tributaire des valeurs antérieures. Est-ce que cette perte complète des repères, du sens, etc., n'est pas là pour permettre aussi à l'homme contemporain de rechercher quelque chose d'autre qui pourrait être peut-être aussi un sens profond qui émerge par plein de petits signes. Et donc là, moi, je suis moins pessimiste que vous.
Je ne suis pas pessimiste, mais je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes quand même dans une période de profonde désorientation.
Oui.
Et culturellement, d'effondrement d'un certain nombre des valeurs qui ont constitué ces piliers auxquels
je faisais référence. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir
derrière ? Non, mais je suis d'accord avec vous.
Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle renaissance possible ?
Voilà. D'ailleurs, pour aller dans votre sens, et n'en pas rester là, bien évidemment, sans ça, c'est la culture elle-même qui est terminée. Nietzsche lui-même parlait du nihilisme comme un stade pathologique intermédiaire.
Tout à fait.
Alors, donc, ça va tout à fait dans le sens de ce que vous rappelez à juste titre. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et il était sans doute absolument indispensable à ce moment de l'histoire qu'un certain nombre de formes s'effondrent. Et là, je reprendrai une distinction qui est présente dans toute l'œuvre d'Antonin Artaud, sur laquelle j'ai pas mal travaillé, c'est qu'effectivement, il faut que certaines formes s'effondrent pour qu'on retrouve les forces et pour qu'on retrouve la vie qui est derrière ces formes et qui a été occultée par ces formes. Donc, c'est un mouvement cathartique. On peut tout à fait l'envisager comme ça. Et à cet égard, il y a une immense espérance qui est sous-jacente à cet effondrement. Mais, disons que, moi je dirais, c'est un sas de purification. Si on le vit comme cela, le nihilisme, à ce moment-là, est un formidable moteur. D'ailleurs, c'est ce que Nietzsche avait envisagé lui-même en parlant d'un nihilisme potentiellement extatique, c'est-à-dire qui est lié à une très forte volonté de l'esprit de survivre. Bon, envisagé comme ça, bien évidemment. Seulement, en attendant, nous pataugeons quand même dans une espèce de marécage.
Alors, vous avez cité Antonin Artaud, donc Je rebondis sur ce nom qui, pour vous, ce personnage qui a été si important pour vous,
très
vous avez
important,
consacré un ouvrage qui, vous venez de me le dire, va être bientôt
réédité oui.
Aux éditions...
Chez Pierre-Guillaume de Roux.
Voilà. Et en fait, Antonin Artaud, évidemment, et on pense à lui quand on parle de la ruine de la forme pour faire émerger une nouvelle vie de la culture. Ouais. Et peut-être pour introduire en fait ce que vous allez nous dire d'Antonin Artaud, on peut lire tout simplement le début, la préface du théâtre et son double, dans lequel il pose, il me semble, très bien cette question que vous venez d'évoquer. Jamais, quand c'est la vie elle-même qui s'en va, on a autant parlé de civilisation et de culture. Et il y a un étrange parallélisme entre cet effondrement généralisé de la vie qui est à la base de la démoralisation actuelle et le souci d'une culture qui n'a jamais coïncidé avec la vie et qui est faite pour régenter la vie. Avant d'en revenir à la culture, je considère que le monde a faim et qu'il ne se soucie pas de la culture et que c'est artificiellement que l'on veut ramener vers la culture des pensées qui ne sont tournées que vers la faim. Le plus urgent ne me paraît pas tant de défendre une culture dont l'existence n'a jamais sauvé un homme du souci de mieux vivre et d'avoir faim, que d'extraire de ce que l'on appelle la culture les idées dont la force vivante est identique à celle de la faim. Nous avons surtout besoin de vivre et de croire à ce qui nous fait vivre et que quelque chose nous fait vivre. Et ce qui sort du dedans mystérieux de nous-mêmes ne doit pas perpétuellement revenir sur nous-mêmes dans un souci grossièrement digestif. Je veux dire que s'il nous importe à tous de manger tout de suite, il nous importe encore plus de ne pas gaspiller dans l'unique souci de manger tout de suite notre simple force d'avoir faim. Si le signe de l'époque est la confusion, je vois à la base de cette confusion une rupture entre les choses et les paroles, les idées, les signes qui en sont la représentation. On voit ici que Artaud oppose en fait les formes artificielles de la culture à cette pulsion de vie qui est la culture dans le sens de construction de soi.
Tout à fait, je pense que c'est une dialectique chez lui entre les formes et les forces qui est tout à fait fondamentale et qui est là aussi un fil rouge, je crois, dans la lecture de son œuvre. Mais au-delà de cela, je crois qu'il a diagnostiqué, lui aussi, on le met souvent en parallèle avec Nietzsche pour ça, qu'il a diagnostiqué ce qui était la maladie de la culture occidentale en particulier. Et cette maladie du nihilisme, on peut le dire aussi en reprenant ce terme, à savoir une défiance envers la vie. Nous ne faisons plus confiance à la vie. Et je pense aussi que ce diagnostic est plus que jamais d'actualité. Parce qu'au fond, nous avons une attitude très protectionniste vis-à-vis de cette extraordinaire énergie vitale que la culture a justement pour vocation de réveiller. Donc, de ce point de vue-là, et puisque ce texte fait référence à la faim, la culture est une faim. Une fin, F-A-I-M, une fin de l'essentiel. et non pas, et je reviens au titre de l'ouvrage de Jean Biesse, le retour à l'essentiel. La culture avant, je dirais, la culture avant cette extraordinaire rupture qu'a été la modernité, s'est toujours caractérisée par cette fin de l'essentiel. Et à cet égard, la culture ne peut pas ne pas être spirituelle. Ça, c'est la thèse que je défends. C'est qu'une culture qui cesserait d'être animée par cette faim et donc par ce désir de spiritualité au sens où la spiritualité affine l'être humain. C'est-à-dire que c'est au fond le même combat. Le combat pour l'anoblissement de l'être humain.
Je vais vous paraître têtu, mais je reviens quand même sur cette idée que, évidemment, que la culture, dans toutes les civilisations, porte la trace de cette soif de spiritualité, de transcendance de l'être humain, ses forces de vie. Mais la culture aussi, et notamment dans notre civilisation occidentale, au XIXe siècle, est arrivée aussi à certains lieux dans lesquels c'était un carcan qui empêchait la vie véritablement de se manifester, d'être dans son improvisation, d'être créatrice. Et donc, on est arrivé aussi à une culture étouffante, sclérosante, dans la religion, je le disais,
dans la
philosophie, dans la politique. Et, oui, mais c'était quand même la culture qui a charrié toutes ces formes de moralisme étouffant que Nietzsche a complètement dénoncé.
Mais on est tout à fait d'accord.
Et donc, c'est parce que la vie a été étouffée que la vie a fait exploser aussi. Et donc, il y a une forme, entre guillemets, de destruction de la culture qui est motivée par la vie elle-même qui est créatrice.
Non mais ça, on en revient à ce qu'on disait précédemment.
Oui, mais c'est pour ça que vous revenez sur l'idée que la culture est forcément porteuse de lumière, de spiritualité, de vie, etc. Je dis, elle peut être aussi étouffante. Elle a pris des formes sclérosées, si
oui,
vous
mais
voulez.
À ce moment-là,
donc, faut faire étouffer les formes, faut faire exploser les formes sclérosées
de
la culture.
Mais le sens du mot culture a changé en cours de route. On ne serait pas dans le nihilisme si la pulsion de vie n'avait pas été atteinte. Et j'ai relu récemment des pages d'Albert Camus dans « L'homme révolté », qui sont tout à fait lumineuses à cet égard, où il dit effectivement cela, c'est-à-dire « le secret de l'Europe, dit-il, est qu'elle n'aime plus la vie ». Autrement dit, s'il y a nihilisme, c'est que la force de vie elle-même est touchée. Elle est touchée en son cœur. Et c'est ça le problème. Ce n'est pas que des formes usagées soient rejetées. Ça, je dirais que c'est le dynamisme même de la vie et donc aussi de la culture. Mais quand la pulsion de vie est touchée, là, c'est le cœur même du dynamisme culturel, de cette dynamique qui permet justement de relier le singulier et l'universel, de se former soi-même tout en étant ouvert aux autres. C'est ce dynamisme-là qui est corrompu. Et je crois que nous sommes dans une phase actuelle qui... comment dirais-je, qui ne fait plus confiance à la vie. Il y a, on le sent à travers ce déni de soi, cette mauvaise conscience permanente, cette auto-critique permanente, mais pas pour faire surgir des formes et des forces nouvelles. Donc, il me semble que, effectivement, c'est là le signe le plus inquiétant du nihilisme.
Alors, je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire. J'apporterai simplement une nuance. C'est-à-dire, je suis
Il
d'accord
faut toujours
avec...
voilà. nuancer. Non, mais... C'est le propre même de la culture que d'apporter constamment des
nuances. Parce que les choses ne
nuances.
Sont pas blanches et noires. Évidemment. Et donc, effectivement,
non, jamais,
effectivement
jamais.
Vous avez raison. Il y a des formes contemporaines de nihilisme qui ont atteint, effectivement, la vie. Et donc, on assiste à des dérives, on le voit dans l'individualisme consumériste, narcissique,
oui,
etc.
Sûr.
Où il n'y a plus aucun sens, où les individus cherchent juste la jouissance immédiate sans du tout donner ou chercher un sens plus profond. Il y a des effondrements profonds de toutes les repères sociaux qui permettent de vivre ensemble, etc., avec toutes les dérives que ça entraîne. Ça, oui, mais il n'y a pas que ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui émerge aussi d'intéressant, de positif, de constructif dans la recherche, justement, de nouvelles formes de spiritualité, de sens, de vivre ensemble, au-delà des formes sclérosées du passé qui ont explosé, et au-delà aussi de toutes ces formes parfaitement bien décrites dans les romans de Houellebecq, par exemple, du cynisme total contemporain de l'individu narcissique. Et donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'est-ce qui peut émerger après cette mort. Il y a une renaissance qui est en train de se passer aussi.
On est
et moi, je regarde plutôt ça
fond.
Et vous regardez plutôt
ce qui est négatif.
Et je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de choses très négatives.
Oui, non, ça, c'est le constat. François Bonnardel part d'un constat, puis après...
Il faut simplement aller jusqu'au bout du processus, le comprendre dans sa logique propre et, je dirais presque, boire la coupe jusqu'à la lie. Bon, et ça, je ne suis pas sûre qu'on soit encore arrivé au bout. Justement pour que ce retournement soit possible. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, chacun cherche finalement une issue de secours, cherche des soins palliatifs, cherche comment ne pas désespérer, etc. Donc il y a quantité d'initiatives qui, si on les réunit, montrent qu'effectivement tout n'est pas perdu. Mais il n'empêche qu'il y a une dévitalisation, une perte de confiance en soi, qui touche tous les domaines, le domaine économique, le domaine culturel, le domaine personnel, des relations humaines, etc. Et tant qu'on n'aura pas compris les ressorts profonds de cette perte de confiance, on ne pourra pas traiter véritablement le mal. Donc, ne pensez pas que je m'attarde simplement par une espèce de complaisance morbide vers des formes caduques ou des formes périmées, usagées et obsolètes. Mais simplement, je crois qu'il faut réaliser où nous en sommes. Et je suis très frappée, par exemple, d'un fait, c'est que chez les philosophes, je constate que cette prise de conscience aiguë de ce qu'est le nihilisme et de la phase aiguë dans laquelle nous sommes ne me semble pas une préoccupation si évidente.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel, en compagnie ce matin de Françoise Bonnardel, qui nous parle des enjeux spirituels de la culture, Lélie Envar.
Oui, alors on a parlé de ce nihilisme, on a parlé de son lien avec la mort, avec la question de la mort et de la vie. Et puis vous avez prononcé quand même le mot mal, ce mal. Et je voudrais donc profiter de ce mot que vous avez utilisé pour que vous nous parliez de ce tableau d'Albrecht Dürer qui vous a inspiré donc ce livre triptyque pour Albrecht Dürer et qui s'intitule « Le chevalier, la mort et le diable ».
C'est une gravure, une des trois plus fameuses gravures sans doute de Dürer qui a été réalisée en 1513. Et qui nous montre un chevalier, enfin on fait l'hypothèse que c'est un chevalier, un cavalier, disons, revêtu d'une impressionnante armure, chevauchant, tout simplement, dans un étroit défilé, montagneux, donc dans la plus totale solitude, accompagné simplement de son chien, et talonné par deux personnages inquiétants qui sont d'une part la mort qui lui présente le sablier et d'autre part le diable qui lui fait escorte et dont on ne sait pas d'ailleurs quel rôle il joue exactement par rapport à la mort. C'est ce que j'ai essayé de décrypter dans cette lecture que j'ai faite de la gravure. Alors au premier regard on peut se dire que en ce début du XVIe siècle Peut-être est-ce là une des figurations possibles de ce que nous appellerons plus tard le nihilisme, à savoir la tentation de céder soit au mal, représenté ici par le diable, soit à la mort, mais je dirais plutôt à ce qu'il y a de morbide dans la mort. En tout cas, c'est ainsi que je l'ai interprété. On peut se dire, oui, au fond, ce chevalier qui résiste, puisqu'il refuse de regarder, son mode de résistance, ce n'est pas le combat, c'est il détourne le regard. On peut se dire que c'est la confrontation humaine la plus classique, ou la confrontation du chrétien, c'est une des interprétations qu'on a souvent données, de l'homme, et peut-être aussi du chrétien, face à ses deux adversaires, qui l'un et l'autre le tirent vers le néant, vers deux formes de néant. Seulement, donc, et c'est d'ailleurs ainsi qu'on a interprété cette gravure au fil des siècles, parce que ce que je montre aussi, c'est qu'elle a eu une extraordinaire postérité. C'est d'autant plus étonnant, cette confrontation, que l'époque où vivait Dürer, je ne dis pas que tout allait bien, la présence de la mort était très forte. Il faut quand même rappeler que dans sa vie personnelle, Dürer est le survivant, on peut dire, avec deux autres frères d'une famille, d'une fratrie, qui en comportait 18, donc 15 enfants. Décimé. Mort, oui. Bon, donc la mort est omniprésente. Mais il n'empêche, et c'est ce qui m'a fasciné moi, dans cette époque, ça a été un vrai bonheur d'écrire ce livre, sans doute pour cela, à savoir qu'il y avait une sorte de stabilité, d'inquiétude existentielle, mais en même temps sur un fond de sérénité. Et à l'inverse de la nôtre, si vous voulez. Je voudrais insister sur ce fait que l'époque, ce 16e siècle, ce début du 16e siècle, est absolument fascinant, enfin, qui voit à la fois apparaître la réforme, nécessaire justement, dans le sens de ce que disait Frédéric, nécessaire comme rénovation en profondeur du christianisme, bon, qui voit fleurir des artistes aussi extraordinaires que Dürer, que Holbein, que Cranach, que Haldorfer, etc. Eh bien, on sent cette, si vous voulez, cette stabilité de fond. C'est-à-dire que le nihilisme n'a pas encore fait ses ravages. Bon, il y a encore une vision du monde commune. Il y a encore on a l'impression, un monde commun. Or, c'est ce monde commun qui a volé en éclats. Je ne cherche pas à idéaliser à tout prix cette époque qui avait aussi ses travers et ses drames. Mais, enfin, voilà. En tout cas, c'est ainsi que j'ai, si vous voulez, que j'ai perçu cette gravure et que je me suis attachée à la décrypter, à essayer de la décrypter et aussi à en retracer l'extraordinaire postérité. Parce que Nietzsche, dont on parlait jusqu'à présent, eh bien, Nietzsche était un amoureux fou de l'art de Dürer et en particulier de cette gravure.
Justement, cette image du chevalier, parce vous avez fait le constat, en effet, qui peut paraître un peu pessimiste quand on vous écoute dans un premier temps, mais vous réanimez quand même cette image du chevalier en disant que chacun, encore aujourd'hui, oui, même s'il y a un nihilisme ambiant, chacun est le chevalier en son royaume intérieur.
Absolument.
Et que c'est ce chevalier-là, cette image du chevalier, qu'au bout du compte, vous retenez contre la mort et contre le diable. Et alors, comment pensez-vous que aujourd'hui, nous, nos auditeurs, voilà, ceux qui vous lisent, pouvons réenchanter le monde et traverser ce nihilisme en devenant nos propres chevaliers?
Je n'emploierai pas, si vous me permettez personnellement, la notion de réenchantement. Mm-hmm. Je crois qu'elle a fait son temps. Parce qu'elle porte aujourd'hui en elle trop de risques, à mon avis, de nouvelles confusions. Comme s'il suffisait de ranimer, si vous voulez, quelques belles endormies, quelques vieux mythes, etc., pour que le monde retrouve son sens, son assise, et soit à nouveau, nous présente à nouveau un horizon. Je crois que ce n'est pas si simple. Je ne dis pas que c'est ce que vous vouliez dire.
Non, le chevalier, a priori, il est plutôt guerrier.
Absolument pas. C'est pour ça que le mot réenchantement, oui, oui, je ne l'emploierai pas à propos du chevalier. Mais je constate simplement que quasiment tous les auteurs qui sont pour moi, en tout cas, des références. Je veux dire qu'à partir de Nietzsche, que ce soit Rilke, que ce soit Junger, que ce soit Thomas Mann, Hoffmann, Stahl, et j'en oublie, n'est-ce pas ? Eh bien, je constate qu'en arrière-plan, cette question de l'annoblissement de l'âme moderne et donc de la sauvegarde de la culture dans ce qu'elle a de spirituel et d'essentiel appelle presque immanquablement cette image du chevalier. C'est comme une sorte de rappel qui vient sans qu'on l'ait cherché. Par conséquent, je verrais bien là une espèce de figure archétype, si vous voulez, au sens jungien du terme, qui rappelle à l'homme un certain nombre de ses devoirs. Alors, sur un mode héroïque et guerrier, dont je ne dis pas qu'il est celui que je préfère. Mais je dis simplement que d'une manière artistique absolument extraordinaire et à travers un symbolisme que chacun, que vous avez raison, peut relire et interpréter à sa manière, eh bien, cette gravure nous rappelle à quelques devoirs essentiels, à savoir ne pas nous laisser subjuguer par la mort, ce qui n'est rien à voir avec la conscience de la mort, mais il y a une fascination pour la mort, il y a une morbidité, et quelqu'un comme Artaud, dont on a parlé, n'a jamais cédé à cela. Ça, c'est absolument admirable chez lui. Bon, prendre au sérieux la question du mal, que l'on ne prend absolument plus au sérieux aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce que Jung, Carl Gustav Jung, qui serait tout à fait, qui mérite d'être présent dans notre propos, ce qu'il reprochait à Jung, à Goethe, c'est d'avoir bagatellisé le mal, n'est-ce pas, à travers le personnage de Méphisto. Alors que Jung, lui, réaccorde une importance considérable au mal. Donc, ne pas prendre à la légère la question du mal. L'homme n'est pas devenu bon par miracle. Or, on a un peu l'impression que tout d'un coup, n'est-ce pas, grâce à quelques actions humanitaires bien ciblées et grâce à cette surtout très bonne opinion qu'il a de lui-même, l'individu postmoderne est devenu merveilleusement bon. Ce n'est pas vrai. Il n'y a qu'à voir l'état des sociétés, l'état du monde. La question du mal se pose. Donc, cette figure du chevalier nous rappelle aussi que finalement, le courage reste la première des vertus. Et enfin, je dirais une certaine noblesse de comportement. Il faut quand même pas oublier que la chevalerie, c'est aussi celle qui se met au service des autres, n'est-ce pas ? Celle qui va, enfin en tout cas dans sa version médiévale, celle qui va au-devant des persécutés, des opprimés, etc. Donc il y a des vertus chevaleresques qui sont sans âge, même si on ne les nomme pas chevaleresques. Donc, il me semble qu'il n'y a rien de désuet, de passéiste, à se dire qu'il y a encore quelque chose à entendre dans cette trajectoire de cette figure énigmatique.
Alors, vous avez cité dans vos auteurs, et vous le faites souvent dans vos livres, vous avez cité énormément un grand nombre d'auteurs allemands.
Oui.
Et c'est vrai que, alors il y a tout un chapitre, par exemple, sur le débat entre Goethe, Herder, mm-hmm. etc. Bon, je ne vais pas revenir sur les détails, mais on voit que vous êtes nourri de toute cette tradition allemande oui. comme étant une des grandes traditions antinihilistes, humanistes. Et la question que vous posez dans votre livre, mmh. mais j'aimerais bien que vous la posiez aussi ici pour nos auditeurs, c'est comment il se fait que cette quête qui a été celle de la littérature mmh. allemande a fini dans le nazisme. C'est-à-dire comment cette prise en compte du mal, cette chevalerie, je dirais, littéraire allemande, mmh. comment il se fait que ça aboutit à cette catastrophe et à ce mal absolu ?
Alors, c'est une question qui, enfin, vous le savez, qui est récurrente et qui est difficile d'ailleurs. Mais si vous me permettez une première mise au point, je crois qu'on ne peut pas la poser comme ça. Il y a eu à un moment donné une rupture. Il n'y a pas de fil conducteur entre Goethe et les camps d'extermination. À un moment donné, cette extraordinaire culture, effectivement, qui nous a donné 9 dixièmes des philosophes, des musiciens, des poètes, etc. Et qui a, j'y insiste aussi, et je l'ai pas mal, beaucoup observé à propos de Durer, qui a pensé le rapport du singulier et de l'universel dans des termes infiniment moins abstraits que ne l'ont fait les Français. Je pense, pour être simple, qu'il y a dans la culture allemande un sens de ce que j'appellerais l'universel concret, l'incarnation à travers des œuvres de la spiritualité, justement, qui en fait la spécificité et qui fait qu'elle a été cette extraordinaire matrice culturelle. Bon, donc, pour en revenir à votre question, je crois qu'il n'y a pas de continuité. Il y a tout simplement qu'à un moment donné de l'histoire, pour des raisons historiques, politiques, eh bien, l'Allemagne a été saisie de ce démon, n'est-ce pas ? À la faveur aussi de ce phénomène qui n'était pas encore planétaire, mais qui est en train de le devenir, qu'on appelle la culture de masse. Je pense que ce n'est pas la culture, c'est pas possible, la culture ne peut pas produire ça.
La vraie culture.
La vraie culture. Donc, il y a eu un abattardissement de la culture à partir de la fin du 19e, que Nietzsche d'ailleurs dénonce très justement. Les analyses relatives au nihilisme ne disent pas autre chose que cela. Il y a une grégarisation, un affaiblissement général des exigences culturelles qui fait que la porte est ouverte à la culture de masse. Le nazisme, c'est l'apogée de la pseudo-culture à travers la culture de masse. Bon, donc, c'est la première remarque que je voudrais faire.
Oui, alors, je n'ai pas dit que cette culture-là avait produit cela. Ce que je veux dire, c'est comment ça se fait que cette culture-là n'a pas été une barrière.
Mais parce qu'elle ne le peut pas.
Parce qu'elle ne peut pas.
Parce qu'elle ne peut pas, parce qu'elle ne le pourrait pas davantage aujourd'hui. D'ailleurs, le peut-elle face à ces nouvelles manifestations du nihilisme que je ne nommerai pas, mais que tout le monde comprendra que certains phénomènes aujourd'hui sont au moins en germe aussi graves que ce qui a pu se passer dans les années 30 en Europe. Et alors, d'autre part, l'autre versant de la thèse que je soutiens, c'est que nous ne voulons pas voir justement que le nihilisme a été le pur produit de ces phénomènes de masse orchestrés, hystérisés, par une sorte d'affectivité malsaine, n'est-ce pas ? Et que, de ce point de vue-là, eh bien, nous ne sommes pas débarrassés des séquelles de cette idéologie. Non pas parce qu'elle serait présente, elle peut l'être, mais c'est minoritaire, c'est marginal, mais parce que elle porte le nihilisme en elle-même. C'est ce qu'a d'ailleurs dit Hermann Rauschning dans son analyse du nazisme intitulée le nihilisme, n'est-ce pas ? C'est la révolution du nihilisme. Elle porte en elle ce nihilisme, elle en est la manifestation. Mais attention à ce que ce nihilisme ne continue pas à nous pénétrer à travers justement cette incapacité où nous serions de produire une analyse véritable de certains phénomènes contemporains. Attention à ce que ça ne nous rende pas aveugles à des résurgences qui, à mon avis, mériteraient qu'on s'y attarde.
Thank you.
êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel, en compagnie ce matin de Françoise Bonnardel. Nous parlons des enjeux spirituels de la culture. Alors Françoise Bonnardel, moi j'ai envie de vous tirer vers un tout autre univers, parce que je sais que vous êtes aussi passionnée d'Orient.
Oui.
Vous avez publié notamment un livre qui s'appelle « Bouddhisme tantrique et alchimie », il est extrêmement intéressant. Et au fond, l'Orient partage assez votre point de vue, c'est-à-dire que pour les orientaux, on est dans une époque de décadence qu'ils appellent le Kali Yuga, c'est-à-dire l'âge de fer, il y a eu l'âge d'or, l'âge d'argent.
L'âge des conflits,
mais l'âge aussi du matérialisme, on est empêtré dans la matière. Alors, est-ce que le bouddhisme tantrique, ce n'est pas justement une voie rapide, adaptée à cette époque où l'homme est tellement empêtré dans la matière qu'il ne peut plus, je dirais, mener un chemin spirituel traditionnel et qu'il a besoin de trouver des voies nouvelles pour accéder à l'éveil?
Alors effectivement, vous avez raison, il y a un lien, même s'il n'est pas évident, mais vous venez de l'énoncer de façon très, très claire. Il y a un lien entre cet ouvrage apparemment, disons, plus exotique, si vous voulez, par rapport à ce dont nous parlions avec Leïli, en ce sens que la diffusion du tantra, qui est un ensemble de pratiques ésotériques et secrètes, cette diffusion du tantra, et en particulier sa diffusion en Occident, est considérée par certains maîtres...
Par le bouddhisme tibétain, essentiellement.
Voilà, essentiellement, oui, bien sûr. Est considérée par certains maîtres comme venant au bon moment, comme répondant à des exigences, à des nécessités qui sont celles de l'homme, de ce fameux Kali Yuga, cet âge des conflits, dans lequel d'ailleurs nous sommes rentrés depuis un certain temps, selon la chronologie indienne, mais nous sommes loin d'en être sortis. Bon. Il va falloir encore passer quelques étapes.
Non, mais la chronologie indienne, c'est des millions d'années. Enfin,
non, c'est pas...
C'est des temps qui sont symboliques, en réalité.
Oui
nous
et non,
prenons pas
parce
les
qu'il y a
choses...
quand même des repérages assez intéressants. Par exemple, dans la chronologie indienne elle-même, on trouve la date de 1939 comme étant la date d'entrée dans la phase crépusculaire du Kali Yuga. Donc, c'est pas si
déconnecté de l'histoire, alors.
Voilà. Mais en tout cas, ce qui peut nous intéresser par rapport à la question d'aujourd'hui, c'est que cette diffusion du tantra serait donc une sorte de réponse venue d'Orient à un désarroi spirituel qui est le nôtre en Occident. Alors, à partir de là, si on entend ce message et si on le reçoit, c'est un message d'espoir aussi. Alors, cela dit, la question qui évidemment se pose à partir de là, dans quelle mesure sommes-nous capables de recevoir ce message et surtout de pratiquer ce fameux tantra? Et j'ai un peu écrit ce livre... Je dirais pas sur un mouvement d'humeur, mais enfin, peut-être un peu tout de même pour essayer de faire quelques mises au point qui essayent d'être rigoureuses sur, justement, les dérives éventuelles aussi d'un tantra light, si on peut dire, hein c'est-à-dire adapté à nos besoins immédiats et donc qui ne répondrait plus à cette exigence spirituelle qui serait de nous apporter un regain, justement, de vie spirituelle qui aurait pour caractéristique, et c'est en ce sens que ça m'a passionnée parce que ça recoupe les études que j'ai faites sur l'alchimie, à savoir que justement, la dynamique même du tantra est alchimique. Donc, ça apporte de l'eau à mon moulin, j'allais dire, qui a consisté à interpréter cette crise de la culture occidentale depuis, en gros, le 17-18e, à travers la symbolique et la pratique alchimique, et donc de valoriser cette logique de la transmutation. Eh bien, voilà que venu d'Orient, un message nous dit qu'effectivement, c'est par l'alchimie que ça passe.
Alors, ça apporte aussi de l'eau à mon moulin. Vous voyez, les deux moulins sont nourris. Parce que, au fond, vous savez que je me suis intéressé beaucoup, je fais ma thèse là-dessus, sur le bouddhisme et l'Occident.
Bien sûr.
Je me souviens de cette phrase d'Arnold Toynbee, le grand historien des civilisations anglais, qu'on lui a posé la question à la fin de sa vie, quel est pour vous l'événement le plus important du XXe siècle à l'échelle de l'histoire des civilisations. On prend beaucoup de recul. On s'attendait à ce qu'il dise, bon, je ne sais pas quoi, les deux guerres mondiales, Hiroshima, Auschwitz. Non, il dit la rencontre du bouddhisme et de l'Occident. Pourquoi ? Parce qu'à l'échelle des civilisations, c'est justement une mondialisation spirituelle qui peut se faire aussi. C'est-à-dire qu'au fond, l'Occident est en crise de sens, en crise spirituelle profonde. Elle a perdu ses archétypes, elle ne sait plus où elle est. Et l'Orient peut nourrir une quête de sens profonde des Occidentaux par d'autres biais qui vont leur permettre de retrouver peut-être les racines profondes de leur culture. Et inversement, l'Occident peut apporter à l'Orient, on le voit à travers les droits de l'homme, à travers toute la laïcisation du christianisme finalement, une dimension qui lui a peut-être manqué aussi. Et ce qui fait que cette imbrication profonde, pas superficielle à travers la standardisation de l'économie, etc., mais la mondialisation profonde, spirituelle de la rencontre de l'Orient et de l'Occident, par le meilleur spirituel de l'Orient et le meilleur spirituel de l'Occident, peut-être donner des issues, des solutions, des propositions nouvelles de sens qui vont revivifier, si vous voulez, et la culture de l'Orient et la culture de l'Occident.
Oui, ça c'est, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est, disons, c'est ce qu'on peut au mieux espérer, effectivement, de cette rencontre. Alors, il faut quand même rappeler que cette rencontre, justement, le premier qui en est vraiment parlé comme d'un symptôme, à la fois un symptôme ambivalent, c'est-à-dire à la fois signe d'espoir et risque majeur d'aggraver encore le nihilisme occidental, c'est Nietzsche.
Ce qu'il craignait, c'était l'évacuation du tragique de l'existence.
Absolument. Et ce qu'il craignait aussi, c'était que un aspect du bouddhisme, le côté, si on peut dire, contemplatif, non violent, etc., ne fasse qu'aggraver la crise nihiliste occidentale. Bon, mais ça, c'est un sujet à soi seul, le rapport de Nietzsche au bouddhisme. Je me suis intéressée beaucoup aussi aux philosophes japonais qui ont reçu de plein fouet la vague nihiliste à travers l'occidentalisation brutale et rapide du Japon, et qui ont vu dans le bouddhisme une possibilité culturelle qui leur est propre de lutter contre cette vague nihiliste. Je pense à Nishida, Nishitani en particulier, dont le livre majeur, Religion and Nothingness, n'a malheureusement toujours pas été traduit en français, malgré les efforts de Bernard Stevens, qui, je crois, s'y est appliqué. Donc, la question du bouddhisme est effectivement fondamentale. Et ça peut être l'occasion pour les Occidentaux de faire ce voyage en Orient au sens d'un dépaysement, mais ce détour vers l'Orient qui les ramène.
Alors, Orient intérieur.
Tout à fait. Et d'ailleurs, il est prouvé que parmi les pratiquants bouddhistes, il y en a un nombre assez important qui revient au christianisme.
Bien sûr. Ce détour nous ramène à l'intériorité
Absolument.
Qu'on avait perdue.
Absolument. Et d'ailleurs, le Dalai Lama lui-même ne se fait pas faute de rappeler chaque fois qu'il en a l'occasion que nous sommes chrétiens. Pour lui, ça
on
semble...
On ne peut pas changer de culture,
voilà,
tout simplement.
On ne peut pas changer de culture parce qu'aucune religion ne s'est transmise en dehors d'une culture et qu'on ne change pas de culture, surtout, et on n'abandonne pas le navire en péril, surtout quand on est dans une culture qui connaît autant de difficultés que la nôtre.
Donc vous n'êtes pas aussi pessimiste
Mais
que...
Mais non, pas du tout.
Voilà.
C'est une apparence.
Croyez, Frédéric, c'est une apparence. Oui, c'est vrai. Et vous croyez quand même beaucoup dans le fait que l'art, ouais. bien compris, évidemment, pas l'art ouais. Parfois dans les dérives qu'il, ouais. qu'il a pu connaître quelquefois, en tout cas que l'art est très nourricier pour nous permettre justement de nous construire dans l'être. Puisque c'est ça, être, s'opposer au nihilisme, c'est se construire dans l'être.
Absolument. Je retiens votre formule, je la trouve extrêmement juste. Et je dirais, si vous permettez, que là encore, c'est l'alchimie qui m'a sensibilisée à ce que j'appelle maintenant l'importance de l'opérativité, c'est-à-dire de cette opération singulière qui consiste à se construire à travers ce que l'on contemple, ce que l'on modèle, ce que l'on pense, etc. Et il y a véritablement ce que j'appelais déjà dans philosophie de l'alchimie, cette catégorie des hommes d'œuvre qui ont le sens de l'œuvre. Alors peu importe l'œuvre, il n'y a pas que les œuvres d'art. Hein. on peut œuvrer dans n'importe quoi que l'on fasse. Et c'est pour cela que j'ai terminé ce livre par le chapitre « Ce retour à l'atelier ». Je pense que la réponse à la crise de la culture, à ce nihilisme sournois qui nous entoure, c'est de regagner chacun notre atelier, quel qu'il soit, et de trouver là cette jubilation extraordinaire qu'est le fait de se sentir œuvré, n'est-ce pas, de se sentir opératif, plus encore que créateur peut-être.
Nous allons terminer cette émission par l'agenda culturel avec Marie Dalquier. Bonjour Marie.
Oui, bonjour. Alors, je voulais vous parler d'un auteur, Jean Biès, un poète philosophe qui est mort et qui nous a quittés au mois de janvier. Il a fait paraître deux ouvrages majeurs qui rentrent totalement en résonance avec tout ce que nous venons d'évoquer dans cette émission, puisque Jean Biès a tout au long de son œuvre proposé de fournir des clés de vie pour rendre une âme à un monde qu'il a perdu. Alors, dans ce premier ouvrage, qui s'appelle Retour à l'essentiel, il fait le constat justement et l'analyse d'un monde qui s'effondre et il propose comme solution le redressement personnel et profond. Alors le deuxième ouvrage, c'est Vie spirituelle et modernité, et dans cet ouvrage, il propose pour traverser la crise un peu apocalyptique comme il dit dans laquelle nous sommes, de se recentrer sur le pouvoir spirituel de l'humanité en recréant des cadres de vie, des attitudes intérieures qui permettraient de sauver peut-être le meilleur de l'homme. Alors voilà, ces deux ouvrages essentiels qui me semblent intéressants aujourd'hui, sur lesquels il faudrait s'arrêter, c'est donc Jean Biès, Retour à l'essentiel aux éditions Delphinéa et Vie spirituelle et modernité aux éditions de l'Harmattan. Et puis, je voulais vous parler d'un site internet qui s'appelle recoursaupoème.fr. C'est un peu la version poétique sur le web du Rescue des fleurs de Bach. En fait, c'est une revue internationale de poésie en ligne qui existe depuis 2012. Alors, ils font un travail de grande qualité puisque chaque semaine, ils proposent 5 poèmes venus du monde entier, des chroniques personnelles écrites par des poètes, des critiques de recueils ou d'essais sur la poésie. C'est une mine d'or pour découvrir des auteurs nouveaux ou mal connus. Moi, je me suis régalée. Je suis restée scotchée à mon écran. Cet écran qui, normalement, est plutôt froid, prend des allures poétiques. On est complètement happé par les profondeurs de notre écran. Je vous conseille d'aller sur le site Recours aux poèmes. Voilà, la poésie telle que la conçoivent les créateurs de ce site est justement une véritable recherche de sens et une arme contre le nihilisme. Et puis, sur Baglist TV, c'est un site dont on a déjà parlé dans cette chronique, qui propose des vidéos de grande qualité sur la spiritualité et la recherche de sens. On vous y retrouve, Françoise Bonnardel, dans une table ronde sur les liens subtils qui unissent le courant philosophique du nihilisme au monde du cinéma. Alors, divers points sont abordés. Moi, j'en ai retenu un qui me semble vraiment intéressant. C'est le cinéma d'un point de vue initiatique. Voir un film, la question se pose, n'est-ce pas ouvrir un canal direct vers sa psyché, son âme, et donc accéder à un espace intermédiaire. Alors, on retrouve autour de vous, parmi les intervenants, l'auteur Sam Azulis, qui a écrit un très bon livre, justement, que je recommande, sur la question du nihilisme dans l'œuvre de Stanley Kubrick. Il s'appelle « Kubrick, une odyssée philosophique », c'est aux éditions de la Transparence, et donc toutes ces vidéos, vous les retrouvez sur baglis.tv.
Merci Marie. Bon, on sera au moins tous d'accord ici. La poésie sauvera le monde, n'est-ce pas, Françoise Bonnardel?
Tout à fait. Avec la beauté,
avec
pour
la
reprendre
beauté, exactement.
Le mot de Dostoïevski.
En tout cas, merci beaucoup d'être venu aux Racines du Ciel.
Merci à vous.
C'était Les Racines du Ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. La semaine prochaine, nous recevrons Christiane Rancé pour parler de François, le pape de l'Évangile. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. Très bon dimanche à tous.